habituelle des médiathèques de Breteuil et de Verneuil. Je suis aujourd'hui rejoint par JC et par Jean. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Guillaume, bonjour JC.
Et on dit bonjour Audrey qui est dans le studio avec nous. Donc aujourd'hui, on va entamer un gros dossier sur les romans et les films noirs. Et nous allons partir d'un essai de Natacha Levé intitulé tout simplement Le roman noir, une histoire française. Donc Jean l'a entre les mains.
Alors on va poursuivre le sommaire quand même.
Oui, parce on va que poursuivre
derrière,
le
voilà,
sommaire.
Et on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant.
On allait rentrer, je voulais présenter le roman avant, mais bon, le sommaire, comme d'hab. Eh bien, on va vous présenter donc le dossier du jour. Ensuite, on aura les coups de cœur. On en a beaucoup cette fois-ci. Et enfin, le calendrier des médiathèques de Breteuil et de Verneuil.
On en arrive donc à la présentation de ce livre qui est quoi, un essai qui est on va le classer. Alors dans quel rayon il est classé, cher médiathécaire, en fait, tout
alors,
simplement.
J'ai un peu triché. Normalement, j'aurais dû le classer en documentaire, mais comme j'avais envie qu'il sorte, je l'ai classé dans le rayon policier pour un petit peu escroquer les lecteurs histoire qu'ils sortent, parce que le rayon documentaire, on va dire que c'est pas trop la joie par ici. Et toujours pas sorti d'ailleurs. Bon. Peut-être que cette émission aidera. Jean, comme tu l'as entre les mains, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ?
Oui, le roman noir, une histoire française. Alors, il a tout à fait sa place dans une médiathèque comme la nôtre, et je jalouse un peu Guillaume d'y avoir pensé avant moi. Parce que, en fait, dans notre médiathèque, les livres qui sortent le plus, c'est les livres du rayon policier. Et ils sortent même deux fois plus en moyenne que les autres romans et que n'importe quelle autre catégorie de documents. Donc ce livre, il est super puisqu'il il offre une histoire du roman noir francophone, ses influences, son évolution jusqu'à nos jours. Et pour un acquéreur de documents, comme nous le sommes, eh ben c'est une mine d'or, puisque eh bien on trouve recensés les grands maîtres, les inspirations, les auteurs d'aujourd'hui, les collections, les éditeurs, enfin bref, c'est super.
Alors moi j'avais une petite question, parce que Jean, tu viens d'utiliser le mot roman policier quand tu évoquais ce qui sortait à la médiathèque, et là nous parlons de roman noir. Quelle est cette différence entre le roman noir et le roman policier ?
Alors c'est très difficile à définir. Déjà, il faut se placer dans une ambiance et remonter vraiment des décennies en arrière. Et commencer peut-être par une petite citation d'un personnage qui a réellement existé. Donc je vais vous la lire en anglais, je vais vous la traduire après. « I've never killed someone who didn't deserve it ». Traduction, « Je n'ai jamais tué quelqu'un ou une personne qui ne le méritait pas ». À qui on doit cette citation que vous avez dû entendre dans beaucoup, beaucoup de films ? À Mickey Cohen, qui était le parrain de la mafia à Los Angeles dans les années 40 et au début des années 50.
Ah oui, il l'a pas dit dans une fiction, il l'a dit pour de vrai.
Il l'a dit pour de vrai à la télévision lorsqu'il était interviewé. Il avait traité aussi le commissaire de Los Angeles de l'époque de dégénéré et de tout un tas d'autres joyeusetés, voilà, en plein direct. Pourquoi je vous parle de ça ? Bah, c'est toute une ambiance, le roman noir, qui n'est pas forcément lié au roman policier. Disons qu'on part d'une base, on va dire, commune dans les années 20 et les années 30. On avait eu les romans de gangsters à la base, qui ont dérivé plus tard vers le hard-boiled, où on avait plus des histoires de flics et de détectives. Mais le roman noir en lui-même, il a pas mal été défini, notamment par un auteur qui s'appelle Foster Hirsch, qui a écrit beaucoup de livres sur le sujet, qui produit aussi des documentaires sur YouTube, c'est facile à regarder. Bon, pareil, c'est en anglais, il faut être anglophone. Aujourd'hui, il enseigne à l'université de Brooklyn. Et je passe la parole à Jean.
Oui, pourquoi j'ai déjà oublié pourquoi j'étais fait un signe comme ça, désespéré, en disant je veux dire quelque chose. Et
tu ne sais plus quoi.
Je me suis dit non, mais c'est bon, je le laisse continuer, c'est pas poli de l'interrompre. Et puis, bah, du coup, voilà, ça c'est parti. Donc.
En tout cas, on revenait sur cet ouvrage autour du roman noir. En fait, comment y a-t-il matière à tant d'analyses et à tant de réflexions autour de ce roman noir, Jean ?
Voilà, je reprends mes esprits. Donc, distinction roman noir, roman policier. Alors, Natacha Levet fait tout un travail un peu universitaire pour essayer de trouver des origines au roman noir. Et c'est plus ou moins convaincant. Donc, je vais pas m'attarder sur ce que j'estime être des choses un peu tirées par les cheveux. Mais en tout cas, ce qui distingue un roman noir d'un roman policier, c'est que dans le roman policier, vous avez des personnages archétypiques, je dirais, des ingrédients pour avoir une enquête qui se tient, des figures un peu incontournables, le détective, la victime, évidemment, sinon, etc. Alors que le roman noir, c'est quelque chose de plus dilué. Il n'y a pas forcément d'enquête, il y a de la violence, il y a des vengeances, il y a du sexe, enfin, il y a plein de choses, il y a un cadre plus ou moins policier, mais c'est plus élastique. Et surtout, il y a un grand pessimisme du ton. C'est pour ça qu'on parle de roman noir, il y a quelque chose de qui vous accable en fait, qui vous oppresse. On pourrait par exemple moi mon expérience de lecteur de roman noir, elle commence avec Léo Mallet et par exemple un très beau roman qui s'appelle Brouillard au pont de Tolbiac. Et si vous le lisez, si vous vous souvenez forcément du début et de la fin et du personnage féminin que Nestor Burma suit sans même savoir pourquoi il le suit. Et puis cette filature improvisée va déboucher sur une histoire aux multiples rebondissements et une fin qui moi m'a encore beaucoup me marque encore beaucoup, qui est une fin noire.
Il faut noter aussi que le genre est difficile à définir, car c'est un genre, que ce soit au cinéma ou en littérature, que l'on définit par ses thèmes avant tout, plus que par l'action qui s'y déroule. Qu'est-ce que j'entends par là ?
Parce qu'il y a beaucoup de thèmes. On allait te le demander. Hein.
Oui, voilà, j'y sais, toujours très curieux, et c'est une bonne chose. Déjà, la base. Il faut commencer par une base. Le personnage principal, donc le protagoniste, qui est souvent un personnage masculin, qui est issu d'un milieu ou d'une profession petit bourgeois. On va prendre par exemple dans Assurance sur la mort Walter Neff, qui est agent d'assurance, ou Frank Chambers dans Le facteur sonne toujours deux fois, qui a été incarné donc deux fois au cinéma par John Garfield et Jack Nicholson, qui est un petit travailleur, c'est un hobo en réalité. Quand les hobos, c'était ces travailleurs itinérants issus de la Grande Dépression dans les années 30, et qui a des petits
boulots. Loin de la bourgeoisie quand même. Hein.
Oui,
loin de la
bourgeoisie. Il y a des exceptions. Là. Par contre, il y a quelque chose, et ça, je vous laisse redécouvrir le roman et les films si vous ne l'avez pas lu, parce que faut pas tout griller non plus au niveau des intrigues. On a aussi des athlètes, par exemple, des ex-boxeurs, ça, il y en a beaucoup. Par exemple, nous avons gagné ce soir avec... c'était qui déjà ? C'était Kirk Douglas ? Je ne sais plus, je crois que c'était Kirk Douglas. Non, c'était pas lui.
Le film est de Robert Wise.
Oui, voilà.
Et l'acteur, on va le retrouver.
Oui, on va retrouver l'acteur. Et par exemple, visuellement, d'un point de vue stylistique, on pourrait catégoriser ça dans un récit noir. Qu'est-ce qui se passe quand on a établi cet état de fait ? Donc, le personnage est souvent séduit ou tombe sous le charme d'une femme fatale. Ouais, évidemment, la figure qui revient à chaque fois, et qui réveille en général ses bas instincts, sa cupidité et ses envies de meurtre. Donc, Cora dans Le facteur somme toujours deux fois, et Phyllis dans Assurance sur la mort, qui encourage notre protagoniste à commettre l'irréparable. Donc souvent, ça se déroule d'une façon assez simple. C'est pas forcément si complexe que ça, les intrigues de romans et de films noirs, parce qu'on va suivre la planification et la mise en action du meurtre du mari de la femme fatale. C'est souvent ça, par justement ce couple adultère qui se forme au début du film ou au début du roman. Et le seul objectif de tout ça, eh ben, évidemment, c'est l'argent.
Oui,
Jean ?
Oui, et l'acteur s'appelait Robert Ryan.
Ah oui, voilà. Merci.
Alors, dans ce que tu dis, il y a aussi énormément de films ou d'histoires qui tournent autour de ces fameux détectives privés avec une ambiance collante presque dans ces narrations.
Oui, et donc on parlait du film noir. Eh bien, le film noir, il est arrivé massivement en France juste après-guerre. La population avait soif de divertissement et Hollywood, la machine était mise en marche et parmi l'offre hollywoodienne, eh bien il y avait ces fameux films noirs. On entendra tout à l'heure la bande originale du film Laura de Otto Preminger. Donc des films inspirés de ces romans américains des années 30, avec beaucoup de pessimisme, beaucoup de réalisme, ça c'est la culture américaine qui se déverse sur la France, et les Français, ce sont les critiques français qui inventent le terme film noir à propos de ces films américains. Et l'expression film noir va être reprise à leur compte par les Américains. Donc c'est un apport du français au cinéma, l'invention du concept de film noir. Et donc ces films vont inspirer des tas d'œuvres dont certaines certainement oubliables, mais donc dont il faudra parler, donc des collections vraiment avec des personnages très caricaturaux, des personnages féminins qui sont des objets sexuels et des personnages en objets, quoi, en fait. Oui, vas-y.
Sachant qu'on accuse aujourd'hui le genre d'être assez misogyne, ce qui est un point, à mon sens, tout à fait valide, sauf il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que les protagonistes masculins, enfin dans les films des années 40 et 50, ne sont pas non plus montrés sous un très beau jour. Ils s'engagent sur la voie criminelle par pur appât du gain, donc ce ne sont pas des personnages qui ont une morale infaillible, loin de là, qui sont même généralement dépeints comme assez mauvais. Et à l'instar des femmes fatales, tout ce qu'ils veulent... Souvent, c'est lié à leur ego. Alors, on va prendre dans Assurance sur la mort l'exemple de Walter Neff, donc le protagoniste. Il comprend immédiatement que Phyllis souhaite assassiner son mari. C'est-à-dire, dès qu'il la rencontre, il comprend ce qu'elle veut faire. Il pourrait partir, rentrer chez lui et ne plus y penser, sauf que non. Pourquoi ? C'est de par son désir sexuel pour Phyllis. C'est par appât du gain, et c'est surtout pour prouver à son ami, parce qu'il a un ami qui est, lui, enquêteur en tant que, dans l'agence d'assurance, qui s'appelle Barton Keys, qui est joué par Edward J. Robinson. Et cet enquêteur, on va dire que c'est un génie de l'enquête. Vraiment, c'est le grand détective, façon, on va dire, limite à la Hercule Poirot, il comprend tout immédiatement. Et il veut lui prouver, enfin, il veut surtout se prouver à lui-même, qu'il peut le battre. Donc, on n'a pas vraiment un personnage au-delà de tout reproche, il est tout aussi coupable que la femme fatale, c'est-à-dire de ses actions. Mais effectivement, on a des personnages féminins qui sont très sexualisés, quand ce ne sont pas les femmes fatales, les autres femmes sont souvent des potiches, on va dire, ou des femmes castratrices, comme dans Scarlet Street de Fritz Lang, aussi avec Edward G. Robinson, où notre personnage est complètement, on le voit, il est littéralement enfermé dans le décor, enfermé chez lui. Il est prisonnier littéralement de sa routine. Sa femme ne lui procure absolument rien et va s'engager sur une voie dont il ne pourra plus jamais sortir un soir où il décide de changer sa routine. C'est souvent ça aussi le thème des films noirs. Vous voulez changer votre quotidien, mais réfléchissez, est-ce que c'est une bonne chose de vraiment changer son quotidien ?
Oui, et je voulais poursuivre sur l'histoire de misogynie. En fait, il faut comprendre que assez vite, en fait, en France, on a francisé le roman noir. Donc, on a injecté l'argot et les atmosphères de la pègre hexagonale. Et il va y avoir une espèce de déclinaison commerciale qui va déboucher sur des œuvres de qualité très médiocre. Et notamment, je pense à Jean Brousse, le créateur de OSS 117. Et je veux vous lire un extrait. Donc, le héros donc de ce livre est quelqu'un qui est sans filtre avec la gente féminine, comme vous allez l'entendre. C'est un dialogue. « On ne peut pas dire que vous soyez grande, Nathalie, mais vous êtes rudement bien foutue. » Il glissa un doigt dans le décolleté de la robe et tira pour voir à l'intérieur. « Pas de soutien-gorge !» Elle ne bougea pas, le laissant se rincer l'œil tout à loisir. Oui. Donc, c'est une espèce de... Il y a une déclinaison commerciale du roman noir qui flatte un peu...
Les bas instincts.
Oui, voilà, les bas instincts, on peut le dire. Et y a OSS, il y a SAS plus tard, qui sera carrément, qui ira dans les clichés racistes et homophobes, etc. Donc,
c'est resitué quand même dans le temps, cette question-là, parce que là, ce que tu évoques, OSS 117, ce n'est pas le 21e siècle, en fait. Hein, c'est un avant, on vivait dans un autre monde.
Oui, les 30
glorieuses. C'est-à-dire que le sexisme était quand même plus apparent, même dans tous les éléments de la société.
Oui, oui. Et en fait, d'ailleurs, Natacha Levey en parle. Elle cite un écrivain. Il faut pas accuser la littérature d'avoir essaimé son amoralité sur la société. Non, en fait, toute une partie du roman noir et ben l'influence directe de la société et le produit de son temps en fait, et donc certains en ont profité pour des déclinaisons commerciales. Il faut voir aussi que dans ces collections il y a c'est un concept de produit, hein, c'est il y a un rythme d'écriture très rapide à soutenir, un rythme de parition très important, et ça c'est l'industrie du roman noir, j'ai envie de dire. Et après, il y a autre chose dont on va pouvoir parler, c'est le roman noir critique, politique, qui trouve, lui, et qui est bien français, et qui trouve ses sources, par exemple, dans le roman naturaliste du 19e siècle. Donc il y a vraiment, il y a derrière l'expression roman noir, il y a plein de choses, en fait.
Oui, d'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un genre, à partir de 1944, qui va être très marqué par les problèmes sociaux. On est souvent dans une ambiance, assez déprimante, qui est intriguée, en fait, enfin plus mise en avant à cause de la récession économique d'après-guerre qui s'est bien manifestée sur la côte californienne. Donc le roman noir, il traite beaucoup de problèmes sociaux, il s'inspire d'événements réels. On a un roman assez intéressant que j'ai ici, de Don Tracy, ancien journaliste, La bête qui sommeille, qui est un pur roman noir, mais comme on l'a dit, c'est un genre qui est défini par ses thèmes, et là, c'est quelque chose d'assez spécial, étant donné que ça narre la déconfiture morale de divers personnages dans une société... On va dire de pêcheurs, on a des pêcheurs, on a des petits bourgeois de New York qui vivent sur la côte du Massachusetts. Un beau jour, il y a un meurtre. Un noir a assassiné une blanche. Une femme que tout le monde déteste. Le langage tenu par les personnages est très cru à propos de cette pauvre femme. Sauf que le coupable est noir. Et tout le roman, ça va être l'histoire d'un lynchage. La charge de quelqu'un qui est coupable, mais qui ne mérite pas non plus dans une société dite civilisée, ce qui va lui arriver. Et tout le récit, en fait, ça montre des personnages qui vont se perdre, qui se transforment littéralement en animaux sauvages, plus le récit progresse. Et la fin est très très cynique. Hein. Don Tracy, là-dessus, était allé très loin.
Là, c'est ce dont tu parles, ça me fait penser au roman de Vernon Sullivan alias Boris Vian, j'irai cracher sur vos tombes, et dont l'histoire se déroule dans le sud des États-Unis et ça met en scène donc la vengeance d'un métis à la suite du lynchage de son frère. Donc on voit comment en France on puise dans cette littérature américaine pour produire le meilleur, puis bon, peut-être aussi pour produire le pire, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, en parlant de Boris Vian, on peut parler du meilleur, oui.
Et dans ce roman, on a parce que c'est un cliché désormais, l'un des clichés fondamentaux du genre, c'est-à-dire que le protagoniste, bon là en l'occurrence les protagonistes, n'ont jamais aucun contrôle sur l'intrigue. C'est-à-dire que c'est des personnages qui subissent en permanence. C'est pas votre petit film classique où le personnage a une action déterminante sur l'intrigue. Là, ils n'en ont absolument jamais. Souvent, d'ailleurs, on l'a pas précisé au début, faut noter que c'est pas tout le temps, c'est plus dans les histoires de détectives, mais pas que, on a une voix off. Tant est que les récits se déroulent assez souvent via des flashbacks. Pensez par exemple à Assurance sur la mort, par exemple, c'était exactement ça. En fait, tout le récit, c'est une confession, entre guillemets. Blade Runner, on avait une voix off aussi dans la première version du film. Enfin, la voix off est très très présente. Dans Les Confidential aussi, on a de la voix off. Enfin, la voix off, dans ce type de récit, vous en retrouvez à tort et à travers.
Je propose, pour qu'on aille un peu plus loin dans l'ambiance, la première pause musicale, si tu veux bien, Jean, avec un extrait de Laura.
Oui, 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 Laura, de Sidney Bechet, donc une mélodie qui était très, 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 très célèbre et qui a participé au succès du film de Otto Preminger. Et dans ce... Oui.
Non, on te laissait finir sur quelques notes de musique, en fait.
Oui. Non, c'est une musique très romantique, une atmosphère très pesante, parce qu'en fait, dans ce film, le détective tombe amoureux d'une défunte en voyant son portrait.
Voilà, ça c'était un beau morceau, merci Jean. Petite anecdote avant de poursuivre, saviez-vous que tous ces films noirs étaient produits donc par des studios, des majors à l'époque, mais qu'ils étaient en réalité sous-produits par ce qu'on appelait des studios B. Pourquoi B ? Pour budget. Étant donné que c'était des films à bas coût, c'est pour ça qu'il se passe souvent à Los Angeles, parce que bah, on n'a pas trop les moyens d'aller sur la côte ouest, tourner à New York et des endroits comme ça. Ce qui donne cette ambiance un petit peu ensoleillée à coups de stores vénitiens, de lumière diffuse. Et bah, comme quoi, avec peu de moyens, on peut arriver à faire des choses qui sont esthétiquement très qualitatives et qu'on n'a pas besoin de budget énorme comme certains studios aujourd'hui pour des effets spéciaux tout moches. Voilà, vous comprendrez, je pense. Jean, tu nous reparles un petit peu de la nouvelle vague de romans noirs ?
Oui, je dis nouvelle vague. En fait, je devrais employer le terme de néopolar. C'est un terme de Manchette, un romancier emblématique de la période des années 70-80 du roman noir en France et qui marque l'avènement de d'écrivains très politisés, plutôt très à gauche aussi et qui voilà, c'est qui ont eu un peu via leur roman une action un peu militante et qui s'appuie sur le roman noir pour un peu fouiller dans l'histoire du pays. Donc un exemple emblématique, c'est le roman Meurtre pour mémoire de Didier Denex qui s'appuie sur la manifestation du 17 octobre 1961 du Front de Libération Nationale en Algérie et ça se passe à Paris et ça se finit par un bain de sang et donc voilà les romanciers de cette période vont vraiment chercher à éveiller les consciences quelque part tout au long des années 70 et 80 et c'est aussi le moment où le roman noir veut gagner ses galons de littérature à part entière et Natacha Levet dans le livre parle d'une émission de Bernard Pivot apostrophe, c'est un peu la consécration, il y a Jean-Bernard Pouy et d'autres écrivains du genre qui sont invités en 79 et voilà avec cette génération d'écrivains, le roman noir gagne ses galons de genre littéraire à part entière. Et j'en profite pour m'attarder un peu sur cette émission parce que un des invités s'appelle, c'est un romancier avec des initiales, trois initiales ADG. Et pourquoi je m'attarde là-dessus ? Parce que lui, ADG, il jure un peu dans le tableau parce que c'est un homme avec des idées d'extrême droite qui dédicace un de ses romans pour mon pote Jean-Marie et qui va créer l'antenne néo-calédonienne du Front National et donc il est vraiment à part dans le paysage mais c'est un bon écrivain. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un bon écrivain.
Il y en a plusieurs des écrivains comme ça dans l'histoire de la littérature qui posent problème après coup. Hein, donc,
oui.
Il n'est pas le premier.
Oui, et dans le même genre, hein, qui est un petit peu oublié bah, parce qu'il est mort un peu prématurément, c'est Maurice G. Dantec qui lui aussi était un peu un mystique de droite. Enfin bref, donc... Donc le roman noir n'appartient pas c'est pas un roman gauchiste par essence. Faut savoir que Léo Mallet vers la fin de sa vie était très aigri et lui-même commençait à tenir un discours très désabusé et un peu réactionnaire sur la fin de sa vie. Donc c'est bien aussi de moi je trouve que le roman noir c'est super pour comprendre que la littérature c'est quelque chose, c'est le reflet du monde dans lequel on vit ou dans lequel on vivait et faut pas se couper de ces auteurs là quoi.
Donc, merci Jean pour cette présentation. Moi, je vais revenir sur le cinéma. Donc, comme vous ne le savez peut-être pas, étant donné que ça n'intéresse pas forcément grand monde ce sujet-là, j'ai l'impression, mais bon, on va vous en parler. La période classique du film noir, elle a débuté quand ? Alors ça, c'est très difficile. Est-ce qu'elle a débuté avec Little César ou Scarface en 1931 ou 32 ? Difficile à dire. Par contre, on a une date de fin assez précise. Pour la période classique, c'est 1958. J.C. Jean, quel film, grand film, est sorti en 1958 ? Film d'un grand réalisateur qui a réalisé Citizen Kane.
C'est pas possible. Ouais, vas-y, joue.
La soif du mal. Hein.
Ah, merci Jean. La soif du mal d'Orson Welles avec Charlton Heston et Orson Welles, qui marque vraiment la fin de cette période classique et qui va vraiment entraîner la vague du néo-noir quasiment une décennie après. Et on a tous les ingrédients qui sont là, étant donné que le protagoniste... Alors, on ne sait pas trop si c'est le personnage d'Orson Welles ou de Charlton Heston, mais c'est le personnage d'Orson Welles le plus intéressant. C'est un flic corrompu, vraiment pourri jusqu'à la moelle, qui assassine froidement ses indics, qui met une bombe dans la voiture du personnage de Charlton Heston, qui joue un procureur pour faire en sorte qu'il enquête plus sur les saloperies qu'il est en train de faire. Il est tout, il est misogyne, raciste, enfin il a tous les défauts, et à aucun moment il est montré comme positif ce personnage. Théoramment, Orson Welles a l'impression qu'il a pris du poids pour jouer une espèce de porc humain, littéralement. Donc, ça a vraiment été le coup de frein, ce film. 9 ans après, va sortir Point Blank de John Boorman avec Lee Marvin, adaptation du chasseur de Richard Stark, de son vrai nom Donald Westlake, et qui va entamer cette période du néo-noir. Alors, rapidement, c'est adapté d'une série, Point Blank. C'est la série Parker de Richard Stark, le pseudonyme de Donald Westlake, qui suit les traces d'un braqueur complètement amoral qui pense uniquement à l'argent, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse dans la vie. Et Point Blank, ça va vraiment être le point de départ. Il va être suivi de The Outfit de John Flynn avec Robert Duvall en 1973, là qui était une adaptation de The Outfit. Gardez le titre du roman, par contre, c'est pas le nom du personnage. Parce que Richard Stark ne voulait pas que les cinéastes utilisent à 100% son univers, donc il pouvait utiliser les titres, mais il n'avait pas le droit d'utiliser le nom de Parker. Et cette consécration du néo-noir, elle est arrivée avec Chinatown de Polanski, avec Jack Nicholson en 1974. Et tout ça, ça donne des intrigues qui vont permettre au genre de muter. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? On est sur des récits beaucoup plus paranoïaques, qui sont centrés autour de complots, qui font pas mal référence au cinéma d'espionnage des années 50, mais avec une approche qui est beaucoup plus subversive. Dans ces nouveaux films noirs, on a vraiment cette contribution au cinéma de complot des années 70 qui va émerger en 74 aussi, avec The Parallax View, à cause d'un assassinat de Sidney Pollack avec Warren Beatty, qui ressort d'ailleurs très très bientôt, là je crois en juin, chez Carlotta Films. Et ça, c'est un film qu'il faut absolument voir, surtout si vous êtes fan d'Oliver Stone, par exemple. Et le thème majeur de ces films, qu'est-ce que c'est ? Les figures d'autorité, elles sont complètement corrompues, elles sont indignes de confiance, et il faut se méfier d'absolument tout, ne croire en rien.
J'aimerais rebondir sur ce que disait Guillaume. J'ai pensé, c'est vrai qu'on parle du film noir américain, mais donc il y a le film noir français et européen. Et là, je voudrais citer un film que tu as peut-être vu, Guillaume, qui s'appelle Cadavre exquis de Francesco Rosi et qui traite directement des années de plomb. L'histoire du film, c'est un enquêteur interprété par Lino Ventura, qui est le meilleur de son équipe, qui doit élucider une série de meurtres de magistrats dans une région de l'Italie, et on découvre que en fait derrière ces assassinats, eh bien il y a une forme de complaisance politique, de d'où qu'elle vienne, puisqu'à un moment donné, on entend même un des personnages dire que la vérité n'est pas toujours révolutionnaire. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, dans le film noir, il y a des choses en Europe, en France, qui sont excellentes. Je pensais à un film de José Giovanni sur la peine de mort avec Alain Delon et Jean Gabin.
Oui, c'était.
Moi, je triche parce que moi, j'ai un ordinateur.
Oui, voilà.
Je peux regarder. je vais vous le dire.
Deux hommes dans la ville.
Deux hommes dans la ville, exactement. Et José Giovanni, un personnage
oui, sulfureux, oui. Collabo, notamment.
Collabo, mais oui, violent, hein.
Enfin, collabo et criminel, hein.
Voilà, criminel, qui a payé, qui a fini par payer sa dette et qui s'est racheté une conduite et a produit d'excellents films humanistes, on peut le dire. Et
je te coupe vite fait, mais si vous avez pas vu Deux hommes dans la ville, enfin, c'est le meilleur plaidoyer cinématographique contre la peine de mort. Enfin, là, puis le film est très anti-flic aussi, ce qui fait entre guillemets plaisir. Étant donné que des films comme ça, on en a plus vraiment aujourd'hui.
Giovanni, donc Innoventura, il joue pas dans ce film-là, mais il était ami avec José Giovanni, et il avait expliqué que le passé, c'était le passé. Et quand on pense au film noir, moi je pense à la figure de Lino Ventura, à Jean-Pierre Melville, à Alain Delon. C'est vrai qu'on a une belle tradition du film noir en France aussi.
Sachant que ce que j'ai expliqué avant, je reviens vite fait sur Point Blank et sur The Outfit, c'est que ça a permis de remettre, parce que c'est sorti avant Le Parrain, ces films-là, et enfin ils se sont faits aussi avant Le Parrain, de remettre la mafia sur le devant de la scène au cinéma. Tu vois que dans Point Blank, qu'est-ce qu'on a ? C'est la mafia de Chicago, en réalité. Sauf que, je vous parlais de cinéma paranoïaque, les pistes sont très brouillées. On ne sait pas si ces gens, c'est la mafia, si c'est l'État. Il y a une espèce d'imbroglio qui est volontairement rendu incompréhensible. Et à aucun moment, on peut se dire « Ah non, c'est juste une organisation criminelle » ou « Non, c'est juste des politiciens corrompus ». On ne sait jamais. Dans The Outfit, c'est pareil. Et vraiment, c'est ce qui va donner vraiment ce chef-d'œuvre qui est Parallax View, où clairement, à un moment, Sidney Pollack qui nous filme une espèce de pseudo-commission Warren, sauf qu'on a l'impression que c'est les chefs mafieux du Parrain qu'il est en train de filmer. Hein. Dans sa mise en scène, c'est exactement ça. Donc, vous voyez comment c'est un genre vraiment qui peut, entre guillemets, partir dans tous les sens, mais quand on se resserre au niveau des thématiques, on arrive à comprendre où ça veut aller. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est un genre qui est avant tout défini par ses thèmes.
Et parmi ces thèmes, le désenchantement est très important, y compris le désenchantement des écrivains par rapport à leur passé militant. Manchette explique que il y a cru, et puis l'action directe, il prend ses distances avec au fur et à mesure de sa carrière. Donc où en est-on du roman noir maintenant aujourd'hui? Parce que donc je vous ai parlé des années 70-80, puis après Natacha Levet consacre un chapitre important sur la production éditoriale en France entre 1990 et 2020. Et donc c'est parmi les choses notables, il faut dire que le roman noir se féminise petit à petit, et maintenant on a des romancières importantes du genre. On connaît Fred Vargas, Dominique Manotti, et quand je vous donne ces deux pseudonymes, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que Fred, Dominique, c'est des prénoms
masculin.
Neutre en fait. Et moi, je sais que Fred Vargas, la première fois que je l'ai lu, j'avais trouvé ça super. Et puis j'ai découvert après coup que Fred Vargas était une femme. Et donc, ça veut dire que l'entrée des femmes dans le roman noir se fait progressivement. Et puis il y a le phénomène Virginie Despentes qui elle bouscule toutes les portes, et avec Baise-moi puis Les Chiennes Savantes fait une entrée retentissante dans le paysage littéraire français.
D'ailleurs, c'est bien qu'on continue de parler de Natacha Levé, étant donné qu'elle remet beaucoup en lumière la collection Série Noire, qui réédite d'ailleurs en ce moment, bah, par exemple, les romans de José Giovanni, et beaucoup de classiques qui méritent bah, de nouvelles traductions, notamment La Bête qui sommeille de Don Tracy, qui a été complètement retraduit. Et c'est bien parce que j'avais essayé de lire l'ancienne traduction qui était horrible, donc je l'avais pas lu en entier, et là je l'ai quasiment fini grâce à cette nouvelle traduction. Donc il y a un beau travail éditorial qui est offert en France, profitez-en.
Et c'est, ça nous interroge, nous, bibliothécaires, parce qu'il faut peut-être leur faire une place à ces auteurs, s'ils sont réédités, si on les remet sur le devant de la scène. J'ai regardé, par exemple, on n'a pas de Léo Mallet dans notre fond, on va peut-être réfléchir à ça. Enfin voilà, tu citais Giovanni, enfin voilà, il faut...
Raymond Chandler aussi, par exemple, qui est retraduit là en ce moment chez Série Noire. Voilà.
Une petite anecdote au sujet de la traduction, Marcel Duhamel, c'était quelqu'un qui traduisait beaucoup de romans américains. Or, il avait zéro formation de traducteur. C'était quelqu'un qui avait appris l'anglais sur le tas, parce qu'il avait été travaillé à l'étranger. Et donc, il prenait pas comme traducteur des gens ayant une compétence spécifique là-dessus. Non, il prenait des gens qui connaissaient bien le langage oral parce qu'ils voulaient des traductions rythmées, des traductions avec l'argot, enfin des choses comme ça. Et donc ça pouvait donner de très bons résultats. Mais il y avait aussi une idée de formatage, c'est-à-dire que pour Duhamel, au début, hein, les premières années, les romans de Série Noire devaient pas excéder 256 pages. Et donc il faisait des coupes sombres, plus ou moins importantes, dès qu'un roman à traduire dépasser cette longueur. Donc il y a quand même au départ la notion de produit qui s'est plus ou moins imposée et qui maintenant est en train de reculer au profit d'une politique éditoriale d'auteur. On suit des auteurs qui sont reconnus en tant qu'écrivains à part entière.
Je vais me permettre de venir vous bousculer. J'allais vous proposer la deuxième pause musicale, celle que tu as proposée, Guillaume, qui nous laisse encore dans l'ambiance.
Oui, exactement.
Tu nous en dis quelques mots, puis on s'écoute.
Oui, très rapidement. Il s'agit de Harlem Nocturne, du légendaire Sam Taylor, morceau jazzy qu'il a interprété avec son orchestre mythique. Vraiment des groupes des années 40, 30, 40, 50. Cette musique vraiment jazzy que les amateurs de cinéma adorent. Et on va s'écouter ça tout de suite. We'll be right back. Ouais, pendant la pause, on se demandait avec Jean, on ne sait plus où donner de la tête avec Marilyn Monroe. A-t-elle succombé à une overdose? A-t-elle été assassinée? On ne sait pas tout ça parce qu'on discutait un petit peu du dernier James Ellroy, Les Enchanteurs, qui se déroule bah, juste après la mort de Marilyn Monroe. Tout ce qui concernait les frères Kennedy à l'époque. On vous parlait de complot, d'intrigue très embrouillée. Bah, c'est exactement ça.
J'en arrivais au moment où j'allais vous demander la conclusion sur le roman noir. Est-ce que vous en avez une déjà de conclusion avant que nous arrivions au coup de cœur?
Oui, pour conclure, je dirais que donc on a la chance quand même en France d'avoir une production contemporaine très riche et avec très variée surtout. Là, je vais vous donner quelques noms d'auteurs pêle-mêle. Louise May, Jean-Bernard Puy, Maud Tabachnik, Benoît Mainville, Olivier Truc. Je fais un petit arrêt sur Olivier Truc parce que il situe ses livres dans la Laponie et il prend la défense des populations indigènes et comme qui sont visiblement maltraitées là-bas. Donc il y a ce que dit Natacha Levet, c'est qu'en fait le roman noir est foncièrement politique mais pas forcément politisé. Je pense que c'est pour un écrivain de roman noir, c'est un écrivain qui a besoin de digérer le réel, qui le désenchante, qui l'accable. Et en fait, j'ai l'impression que quand on écrit un roman noir, on écrit ça pour se libérer de ce poids qu'on subit quotidiennement, de ce monde qui est trop grand, trop indéboulonnable. Donc au moins, on en fait un objet esthétique. L'apparenter avec le roman naturaliste, le roman réaliste, pour moi, ne se discute pas. Et c'est bien c'est pour ça que c'est bien de lire ces classiques. On n'a pas parlé de Maupassant. Est-ce que Maupassant est un auteur de roman noir? Ben moi, j'ai tendance à dire que ouais, les contes cruels, c'est quand même très 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 noir. Voilà.
Rapidement, ma petite conclusion. C'est un genre, comme on l'a vu, qui est très poreux et très varié. Il y a vraiment beaucoup de choses. On a une belle production éditoriale en France, que ce soit en auteur originaux ou en traduction, donc profitez-en. Certes, le roman noir, c'est pas des romans feel-good comme la New Romance qui marche très bien actuellement. Sauf que, contrairement à la New Romance, ça donne peut-être plus matière à réflexion. Mmh. À réfléchir, donc.
J'ai les yeux dans un bouquin. Légalisé, légalisé, légalisé.
Et on arrive au moment des coups de cœur. Ouais, c'est notre petite virgule légalisée. Ouais. Bah justement, pour lire, on va suivre vos conseils.
Que pouvons-nous lire? Alors, bon, pour une fois, je vous ai choisi que des bouquins qui sont à la médiathèque.
Ah oui, à une époque, vous aviez un coup de cœur, là, vous en avez trois ou quatre chacun. Oui. Hein.
Donc là.
On va essayer de compresser, alors.
Ah oui, ça va être compressé. J'en ai déjà parlé, La bête qui sommeille. Donc, histoire d'un lynchage raciste aux États-Unis par Don Tracy. Là, j'ai demandé au perroquet de Richard Stark. Donc, c'est le second roman de la trilogie finale de Parker, qui se compose donc de trois opus. Le premier, c'est j'ai plus le titre. Le second, donc, c'est demandé au perroquet. Et le dernier, c'est Argent sale. Et c'est la chronique du dernier braquage de Parker et de sa bande. Et c'est vraiment très très sombre. Pour finir, une BD, parce que pourquoi pas. Fatal, d'Ed Brubaker et Sean Phillips, une des rares en fait BD, enfin c'est un comics surtout à la base, produit chez Image Comics, qui a vraiment réussi à retranscrire tous ces codes et toute cette ambiance des romans et des films noirs en bande dessinée. Aux États-Unis, je précise, on a de très bons auteurs en France, mais là on parle comics. Et donc c'est en 6 tomes, si je dis pas de bêtises. Et pour moi, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Clairement, je suis pas tout à fait fan du trait de Sean Phillips, mais là, pour moi, ça passe plutôt bien. Voilà.
Jean, ta sélection.
Alors moi je vais vous parler d'un réalisateur iranien qui s'appelle Asghar Farhadi, que j'ai découvert grâce à notre fonds DVD. C'est une merveille. Asghar Farhadi, en France, il a tourné avec Bérénice Bejo un film qui s'intitule Le Passé, qui a eu des récompenses. Et la filmographie de Asghar Farhadi, c'est extraordinaire. Je vais juste vous citer les titres. Une séparation, Le Client, Un héros, Le Passé. C'est des portrait de personnages d'une richesse, d'une subtilité incroyable. On parle des fois de suspense hitchcockien, c'est un suspense à ce moment-là psychologique. Il fouille ses personnages comme personne, et les fins sont ouvertes, elles laissent la possibilité au spectateur d'imaginer ce qui va se passer ensuite. Et c'est du très très grand cinéma, et il est disponible sur la médiathèque numérique de l'Eure. Venez nous demander des renseignements au sujet de la médiathèque numérique de l'Eure. Vous verrez que c'est gratuit et que vous y avez droit dès que vous avez une carte de d'emprunteur.
Merci.
Très bien. Pardon.
Oui. J'y sais, je crois qu'on en est au moment de l'agenda, non, c'est ça?
Exactement. Qu'allons-nous retrouver prochainement?
Verneuil.
Proche de chez nous, voilà. On commence par Verneuil?
Oui, alors on commence par une annonce un peu générique. En ce moment, la médiathèque départementale de l'Eure lance une grande campagne pour inciter les lecteurs à donner leur avis sur les médiathèques et comment elles pourraient évoluer. C'est en ce moment, quand vous venez nous voir, et bien vous sachez que on peut vous faire remplir un questionnaire qui dure pas longtemps, ça dure quelques minutes, et c'est très important pour nous d'avoir ce retour. On discute avec nos lecteurs de manière informelle, mais là c'est un moment privilégié pour le faire, parce que ça va remonter à la médiathèque centrale, et puis ça débouchera sur des changements.
Eh bien ça, c'est plutôt une bonne idée. Du côté de Breteuil?
Breteuil, on a reçu aussi les flyers à disposition. Ça se fait avec un QR code, logiquement, si vous êtes équipé d'un smartphone, c'est vite fait. Qu'est-ce qui va se passer, donc, au cours des prochaines semaines, en tout cas jusqu'à la prochaine émission? Demain à 10h30, le panier histoire pour les petits de 3 à 6 ans avec Christelle. Le 9 avril, pendant les vacances scolaires, c'est un mercredi à 14h dans le cadre de la semaine XPO. Le spectacle La Vengeance des Geeks aura lieu au niveau de la salle d'animation. Et le 12 avril, toujours pendant les vacances scolaires, la Ludoditon sera présente le samedi à partir de 14h pour une animation. Et la semaine prochaine, là c'est plus la médiathèque, c'est la suite des programmes de Principe Actif. Vous retrouvez Radio Superpouvoir avec Alain et moi-même. On continue de parler de Captain America, et cette fois, on va être en plein milieu des années Reagan. Alors, Chuck Norris, Sylvester Stallone et toute la bande, là, vous allez en prendre.
Une autre belle période du cinéma, ça.
Oui, pour d'autres raisons, par contre.
Exactement, c'est quand même l'usine à nanar quand même de ces années-là.
Magnifique.
On retourne à Verneuil. Allez, voilà. Comme ça, parce que on a décidé qu'on n'irait pas tout droit.
Alors, à Verneuil, on a reçu Livan en concert, c'était super, pour le Printemps des Poètes et les chanteuses, un hommage aux chanteuses réalistes. Et là, il va y avoir deux séances de lecture, une le 22 mars à 15h par les membres de l'association Amimo, qui est une association autour qui promeut l'écriture plaisir. Et c'est super chouette, il faut vraiment y aller. Armel est quelqu'un de génial avec qui ça se passe toujours bien. Et puis le 29 mars, Lire et faire lire viendra après le goûter littéraire proposer une lecture de poèmes aussi et un quiz avec un petit cadeau à gagner à la clé. Merci Lire et faire lire. Et puis je déborde un peu sur avril aussi, parce qu'il y aura le festival Expo, je sais pas. Et on va organiser le 4 avril un loto du numérique. On va combiner un vrai loto avec des places de ciné à gagner, une imprimante je crois aussi, et le vrai loto, et puis bah, des petites lectures à voix haute pour rythmer le tout et pour pas s'endormir sur sa grille. Ça promet d'être très très chouette. On l'a déjà fait 3 fois, donc c'est rodé, j'ai hâte de le faire. Et puis il y aura, grâce à la médiathèque départementale de l'Eure, 2 animations, l'atelier voyage en réalité virtuelle avec le collectif La Souris Grise, et à Francheville le 9 avril un atelier Fab Lab proposé par le collectif Les Arts et les Mots.
Et ben voilà un sacré tour de programme. Ouais,
merci Jean, merci JC. Nous on se retrouve normalement le mois prochain, le 15 avril, pour une émission consacrée aux partenaires des médiathèques.
Les messages sont diffusés à l'antenne dans la matinale à 8h15. Alors prenez possession des ondes et laissez vos messages après le bip au 02 32 62 50.